Effectivement, je remercie les quelques mains amies qui ont considéré que proposer à la réflexion, de demi-heure de ce colloque, une réflexion sur Birger et le mouvement paysan Wawangun, anticapitalisme, antisémitisme, antisocialisme, on pensait contre, c'était une façon d'aborder quelque chose qui, il y a 30 ou 40 ans, était tout à fait explosif, qui à l'heure actuelle, vu la quarantaine d'années, qui a vu un peu d'eau passer sous les ponts, peut commencer à être au moins publié. Alors, si je dis ça, c'est que aborder une biographie de Joseph Birger, c'est se trouver en face de deux verrous ou de deux tabous. Prenez le mot qui vous va. Le premier verrou, c'est incontestablement le fait qu'écrire une biographie de Joseph Birger, c'est comme alors, il y a un petit jeu de pédalier constant qui fait qu'on entend parler sans arrêt de Pierre Fimelin. Pierre Fimelin a été un temps étudiant en droit, à ce titre-là responsable des jeunesses patriotes de Tétinger et écrivant en décembre 1934 dans les jeunesses patriotes d'Alsace, tout ce qui bat l'étranger, expulsé, juif, anarchiste, communiste, révolutionnaire, condamné au droit commun, cherche asile en France et encore mieux, il trouve du travail. Et on a bien, en décembre 1936, dans le National Populaire d'Alsace, le journal aussi des jeunesses patriotes, le compte-rendu de la réunion où Joseph Birger a fait exposer aux étudiants de droit son option corporatiste, solidariste en Ukraine. C'est donc s'exposer à un verrou, d'autant plus que le commandeur a adressé sa statue et qu'il explique dans les mémoires d'un Européen, à la première page, je n'aurai pas de grande lecture à faire pour vérifier ma source, que son entrée dans la vie publique fut pour une large part le fruit du hasard. À la fin de la guerre, il est à Metz, il aurait peut-être poursuivi une carrière de magistrat s'il avait trouvé un logement à Metz, n'en trouvant pas, il vient à Strasbourg, et arrivé à Strasbourg le 15 août 1945, je fus pris très rapidement dans l'engrenage de la politique. Désolé, l'historien simplement honnête et sachant lire avec effroi s'aperçoit qu'il faut commencer par rectifier un certain nombre de choses et qu'il y a donc une première statue du commandeur avec derrière un parti politique, des ramifications, j'y reviens. Ça, c'est le premier verrou. Le deuxième, sans exagérer et en prenant simplement quelques mots, c'est de dire que la situation de l'Alsace pendant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, pour l'histoire d'Alsace, c'est quelque chose d'assez simple. Bon, il y a certes le problème juif, mais bon, ça touche quelques foyers. Il y a surtout, avant tout, le fait qu'en Alsace, il y a eu quelques nazis qui ont été fusillés très rapidement, c'est plus la peine d'en parler. Il y a eu avant tout des malgré nous, éventuellement depuis quelques années, des malgré elles, hein, on voit le changement social s'opérer, mais enfin, chers amis, il n'y a pas eu de collaborateurs. Vous n'imaginez pas qu'aujourd'hui, on puisse, avec les travaux variés qui existent des uns et des autres, vous n'imaginez quand même pas qu'on puisse sortir l'équivalent de ce qui existe depuis l'année dernière pour le Luxembourg, un ouvrage d'un universitaire luxembourgeois qui porte le titre « La collaboration au Luxembourg », c'est-à-dire un espace de la même densité humaine que le Bas-Rhin à lui tout seul, ou que le Bas-Rhin à lui tout seul. Donc, de la collaboration en Alsace, et par conséquent, dire que Joseph Bilger a été le propaganda leiter du Gauleiter Urkel, c'est absolument inaudible, impossible à énoncer, et donc non recevable, soigneusement verrouillé. Deux verrous au moins qui expliquent qu'en 1982, lorsque la Revue d'Alsace publie un article de Bernard Rembringer, excusez-moi, 1980, un article de Bernard Rembringer intitulé Un mouvement paysan extrémiste des années 30, les chemises vertes en Alsace, il y est dans les mois qui suivent une réaction d'une extrême violence dans un journal qui s'appelle Élan, c'est-à-dire l'organe du FEC, le foyer de l'étudiant catholique, qui explique que les historiens Bernard Rembringer et ceux qui ont été amenés à aider à la réalisation de l'article, j'entends citer Léon Schwartz et moi-même, sont traités de noms que je laisse aux archivistes le soin de détailler, et nous explique en particulier que le travail d'historien a été fait de façon assez lamentable, puisque un journal du FEC écrit il y a eu une demande à l'unanimité du jury de la Cour de justice de Metz de gracier Joseph Bilger. Donc, acte 1, 1980, publication d'un article qui dit, écoutez, désolé chers amis, des collaborateurs, ça existe. Simplement, c'est un peu compliqué à reconstituer, d'autant plus qu'il faut avoir le courage d'aller à la fois mettre un pied en Alsace, avec des archives en tribune alsacienne, et puis de mettre un autre pied en Moselle, puisque pour des raisons que je découvrirai au fur et à mesure de l'enquête, il est passé de l'Alsace à la Moselle. Acte 2, 1983, l'histoire de l'Alsace rurale est publiée, et dans cette histoire de l'Alsace qu'édite Jean-Paul Béchelèvre à Istra, Léon Strauss fait un article sur les organisations paysannes alsaciennes de 1890 à 1939, où il montre le combat après 1918 entre deux, entre guillemets, fédérations, et où il n'y a pas, le terrain étant occupé et tendant à se réunifier à partir de 1921, il n'y a pas de place pour autre chose, sauf s'il y a quelque chose du type populiste chrétien qui se met en place. Et il est certain, j'aurais tendance, si, et on en débattra peut-être, en relisant les choses, j'aurais plutôt tendance à dire un populisme catholique, mais enfin, toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui se met en place dans un débat par rapport à des fédérations établies, quelque chose d'extrêmement violent, qui est lié au départ à des personnes qui ont disparu quasiment de la scène, que Léon Strauss a contribué à remettre sur pied, et en particulier Gestermann, qui est professeur d'agriculture, et dont Joseph Bilger va très vite prendre la place comme secrétaire général d'un mouvement qui a été créé par ce Gestermann, c'est-à-dire le Bauer. Et l'on a donc, à l'aide d'un journal, le Bauer Blatt, on a donc un mouvement paysan qui s'affiche, structuré, extrêmement structuré, et qui, dans la dimension de ce qu'il met en avant, si vous permettez cette expression qui va être contradictoire, dans ce qu'il met en avant, c'est une pensée où il y a à la fois de l'anticapitalisme, de l'antisémitisme et naturellement de l'antisocialisme au sens anti-bolchevisme ou anti-marxisme. L'unité, le fil rouge entre les trois étant naturellement la présence des Juifs dans chacun de ces éléments. Alors, c'est là où on va s'arrêter deux minutes et regarder trois images, si vous permettez. La première, c'est donc le personnage de Joseph Bilger qui est là au milieu, à côté de son épouse, et qui est entouré surtout d'éléments jeunes, qui sont tous en chemise verte, avec cravate. Et ces chemises vertes, qui sont nées à Charonne-sur-l'Étang, notre concitoyen d'Orgères vient assister à Colmar à un mouvement où il voit ses chemises vertes. Et c'est à partir de là que Dorgère prend comme modèle les chemises vertes et va donner au mouvement paysan qu'il dirige, lui, également, ce même uniforme. C'est ce qui explique pourquoi un certain nombre de choses concernant Bilger sont à lire en contrepoint de Dorgère, et où il faut absolument, pour comprendre Bilger, il faut absolument lire le livre de Paxton sur le mouvement des chemises vertes, Dorgère, étant entendu que vu l'obstacle de la langue, Dorgère n'a pas pensé une seule seconde venir sur les terres alsaciennes, laissant à Bilger le territoire alsacien pour des questions de langue. Donc, un mouvement jeune, un uniforme, les chemises vertes, et derrière cela, toute une structuration avec un front et à l'intérieur de ce front, des éléments paysans, le barangou, des éléments ouvriers et artisanaux, un service d'ordre, un service d'entraide, une banque, le journal, quelque chose, et un almanach, on a encore deux exemplaires à Scomemo, à Racondange, et donc voilà déjà une première chose typée. La deuxième chose, on la prendra juste une seconde, mais c'est simplement la deuxième image, c'est bien pour rappeler que dans l'histoire de Bilger, s'il y a un verrou, c'est bien celui de l'entourage des Gauleiter, et donc ici, le Gauleiter Burkel, qui a un point commun avec Wagner, ce sont deux anciens instituteurs. Donc le résultat des courses, on l'a là, c'est un petit peu dans les années 36, le Gauleiter, le moment où peut-être, on n'est pas sûr de la question, le Gauleiter, enfin, Bilger fait connaissance du Gauleiter. Donc, on en est là, et dans le mouvement qu'il dirige, dans le Bauernblatt, on a tout ce qu'il vous faut ad nauseam pour comprendre ce que c'est que l'antisémitisme. Alors, je ne vais pas multiplier les éléments, mais enfin, première chose, diffusion des extraits du protocole des sages de Sion. Donc, c'est une bonne arme intellectuelle pour montrer un certain nombre d'éléments. Deuxième chose, très sensible chez les paysans, l'enrichissement des maîtres juifs de la meunerie. Donc, des gens comme Louis-Louis Dreyfus ou Henri Lévy, le capitalisme est en partie aux mains des juifs. Troisième élément, la diffusion dans les journaux du fait que les cadres du bolchevisme sont des cadres juifs. Et naturellement, des devises très simples à retenir du type de la demande de boycotter des commerces juifs avec le slogan très simple, très compréhensible, Christen kauft bei Christen. C'est d'une élégance très bonne, au sens où il n'y a pas de reproche à faire, on a tous compris que c'est la même chose que Judenverboten ou interdit aux juifs et aux chiens, comme c'était à la maison de la Mercelle à la même époque. j'en remercie Jean Dalcorte de me l'avoir signalé, où me dit-on, enfin me dit-il, il y a quelque chose d'inouï qui se passe, c'est que les trois consistoires, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, se réunissent pour dire un certain nombre Voilà le texte que m'a donné Jean Daltroff. Notre préfet, etc. Monsieur Henri Lévy considère comme extrêmement dangereux et grave le mouvement provoqué dans le rang des cultivateurs par un certain Wilger. Monsieur Samuel, président du consistoire de la Moselle, donne ensuite un aperçu de la situation en Moselle. Les manifestations antisémites sont des manœuvres provoquées par les Allemands. Monsieur Henri Lévy est d'avis que les mesures prises par les préfets suffisent pour le moment. Il conseille de rester en contact discret avec les autorités et de prendre la situation sérieux, mais pas au trajet. Monsieur Schwab de Mulhouse donne connaissance de la constitution à Mulhouse d'un groupe de jeunes chauds décidés à se défendre, au besoin par la force. Nous sommes là en 1935. Donc les consistoires sont dûment alertés, ont un certain nombre d'éléments, je vous les laisse en réflexion, d'autant plus que ça va éclore, si je puis m'exprimer ainsi, ça va éclore avec le Front populaire et M. Badinter rappelait récemment que on a oublié à notre époque, on a oublié à quel point il y avait une charge d'antisémitisme folle à l'égard du gouvernement de Léon Blum. Alors, je n'ai pris ici que deux fiches. Lorsque Wilger exprime ce qu'il pense du Front populaire, ceci a été le groupe d'assaut fasciste d'Israël en France en l'an 1936 du Salut. On a bien là une charge. Et puis alors, plus intéressant pour l'historien, je trouve, ce rapport du sous-préfet de Château-Salins, la circonscription de François Baudouin, des Coutiers, qui un temps va être au Bordeaux, mais enfin, dont l'itinéraire ensuite va être tout à fait aux antipodes de celui de Wilger, puisqu'il va mourir en camp de concentration. Et donc, le sous-préfet de Château-Salins, en 1936, écrit. Le nommé Bourg s'est répandu en ma présence après la clôture de la séance officielle en propos déplacés que j'ai d'ailleurs relevé, exprimant le regret que M. Blum n'ait pas été abattu et que la France ne se débarrasse pas par la violence de ses éléments juifs. Donc une réunion de propagande, le sous-préfet est à la réunion. Il y a ce qu'on appelle après la réunion des fichiers, où on laisse la parole s'exprimer librement et par chance, excusez-moi, je dis les choses effectivement comme ça, nous avons ce témoignage d'un sous-préfet qui dit que publiquement dès 1936, on disait dans les rangs des adhérents du gouvernement que, je répète, c'est dommage, exprimant le regret que M. Blum n'ait pas été abattu et que la France ne se débarrasse pas par violence de ces éléments. Donc, pour l'antisémitisme, vous devinez que l'on en est à Nauséal, avec de temps en temps des choses qui font, entre guillemets, sourire les historiens, surtout lorsque la mode veut qu'on s'étonne pudiquement aux questions d'espionnage. On a, en 1937, on a dans le fonds Vallaud, les renseignements généraux strasbourgeois qui écrivent donc par la hiérarchie, et ça remonte au ministère de l'Intérieur, qui disent on a ouvert la correspondance de Pierre Primelin et on a ouvert la correspondance de Joseph Wilger, et donc voilà ce qui se passe comme échange. Pierre Primelin dit « Je vous ai déjà dit que tout tout sentiment antisémite m'est étranger. Alors, quand on a lu les Jeunesses patriotes, on flotte un peu. Personnellement, je vous ai déjà dit que tout sentiment antisémite m'est étranger et que la doctrine antisémite me paraît injustifiable. Ce à quoi les renseignements généraux ont soigneusement décollé, vous savez, des trucs de vapeur, la colle, donne la réponse de Joseph Bilger. Personnellement, l'antisémitisme me fait horreur, mais l'arrogance insupportable des milieux juifs dans notre pays, l'usure et les scandales auxquels ils sont mêlés, leur action politique et sociale destructive m'ont engagé à signaler le danger par des formules qui frappent, Christen auf Christen, je suis devenu antisémite par nécessité. Donc, si vous voulez, on en est là dans les années 85-86, quand Freddy Raphaël, avec une autre personne, je vais bientôt retrouver ma fiche, écrivent un article sur avec Geneviève Erdo-Richemart, les Noirs et les Rouges au village. Et là, je me permets de dire qu'à ce moment-là, on a des réactions extrêmement violentes par la même personne qui avait écrit dans Élan. J'ai préféré vous lire ce genre de document plutôt que ceux qui me concernaient ou qui concernaient les autres, parce que simplement, je n'ai pas envie de tourner le mot. Des Juifs peuvent-ils, c'est donc cette personne qui écrit, des Juifs peuvent-ils honnêtement s'instituer de leur propre autorité historienne? Quand il s'agit d'intellectuels de seconde zone, le résultat est évidemment tout sauf de l'histoire intelligente et honnête. Il s'agit d'un règlement de compte bien plus large qu'ils poursuivent et qui concerne toute la société paysanne traditionnelle et même l'Église catholique alsacienne d'autrefois. Donc, on a bien là, dans le tir de barrage que j'évoquais, le fait de s'attaquer à des héros, on a bien donc là, de manière assez pesante, pendant une dizaine d'années, on a des éléments qui font blocage. Alors, ça a été donc, vous connaissez la formule de Napoléon, mon centre recule, mon aile droite piétine, et mon aile gauche est enfoncée, j'attaque. Donc, on a été, Freddy Raphaël, je crois, et moi-même, on a été à l'affût pendant un nombre certain d'années, puisque je donnais des dates, et là nous sommes en 2014, une enquête donc sur 30 ans, avec d'abord comme premier élément la Cour de justice de Metz. La Cour de justice de Metz, puisque c'est bien à Metz que le, entre guillemets, collaborateur Joseph Bilger, est jugé. Avec, si vous le permettez, deux choses importantes pour ne pas rentrer tout de suite dans la mécanique consistant à critiquer systématiquement les procès d'épuration. Première chose, c'est un procès qui a duré une semaine, donc il est impensable de dire que c'est un procès qui a été bâclé, une semaine. Deuxième chose, c'est un procès où la défense a eu la possibilité de faire venir 150 témoins, alors que l'attaque, entre guillemets, l'accusation n'a fait venir qu'une cinquantaine de personnes. Il y a une extrêmement grande fidélité des militants du Borondou, d'autant plus, je ne pourrais pas le publier, mais d'autant plus que Mme Bilger avait fait rédiger un argumentaire sur la conspiration du droit et que chacun des 150 militants venait exposer à la Cour ce qui était dit dans l'argumentaire. Donc déjà deux raisons. Et puis une troisième raison, qui est que notre ami Pierre Poulin lui-même dit, quand je suis nommé en 45 à Metz, je suis nommé à la Cour de justice faire un certain nombre de choses, et je puis vous assurer qu'elle a été conduite d'une façon tout à fait correcte et tout à fait exemplaire. Donc, une enquête très large qui a duré son temps, et où en particulier on découvre deux touches qui sont extrêmement importantes. La première touche, c'est de pouvoir expliquer pourquoi est-ce que Bilger est passé de l'Alsace, où il avait ses militants, son journal, pourquoi est-ce qu'il est passé de l'Alsace à la Moselle. Alors là aussi, c'est assez simple, parce qu'on a la chance d'avoir eu encore la possibilité, parmi les interrogatoires, d'avoir l'interrogatoire d'Ernst, qui est donc maire de Strasbourg, entre guillemets, durant la période nazie, et de Wagner. Que disent Ernst et que disent Wagner? C'est qu'à un moment donné, Joseph Bilger est venu les voir, a proposé ses services, mais que les uns, enfin, l'un et l'autre, les ont refusés, et par exemple, pour ce qui est de Ernst, il explique qu'il s'agissait d'un élément coûteux à l'égard du régime nazi. Donc, refus de Ernst, refus de Wagner, il a la possibilité, compte tenu du fait que son mouvement est également implanté en Moselle, et que peut-être, c'est pas prouvé, il a connu bien avant la guerre Burkel, il se présente à Metz, et avec Foulé et Anthony, il est pris jusqu'en 1942 comme étant le propaganda, leiter. Donc ça, c'est une première chose qui permet d'expliquer pourquoi les portes s'étant fermées en Alsace, il prend la dernière porte qui lui était ouverte, étant entendu encore que c'était un homme extrêmement intelligent et que, en fait, ce qui lui caressait le plus, c'était les législatives du 40. Mais là, vous savez, il y a eu un décret loi qui les a fait reporter la chambre avec une possibilité juridique jusqu'en 1942, et la guerre étant arrivée, cette possibilité-là s'est fermée pour lui. Et il avait donc, à mes yeux, plusieurs faits en feu: la députation, le barin, avec Wagner et Ernst, et troisième fait en feu, la Moselle. Et c'est la Moselle qui a donné. Alors, le malheur, entre guillemets, et le bonheur des historiens, ça a été de voir qu'étant journaliste, dans l'âme, il a énormément publié, et il a publié des choses qui après, lues devant un tribunal ou devant une assemblée, font passer de temps en temps des sueurs. Alors, je n'en lirai qu'un seul, je lirai un seul texte, qui est d'ailleurs un texte qui lui a été indiqué au procès, qui n'est pas un texte, comment dire, de la publier dans les journaux, en particulier le Médecin Sacré-Marne, mais un texte qui date juste des années 70-40, et je pense que la lecture de ce texte vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que les verrous sont parfois solides. Il écrit donc, il envoie une circulaire à tous les gens du Baron-Hund, et c'est ce qui se trouve justement dans le procès d'épuration. Camarades, après un difficile combat plein de sacrifices pour notre peuple, notre patrie et sa source de vie et de sang, la patrie paysanne, le plus grand tournant de notre époque causé par le national-socialisme allemand nous apporte entière satisfaction la réalisation de notre idéal vers le but adopté. Il est tout à fait naturel et dans le devoir de tous nos combattants des unions paysannes, de la jeunesse frontiste du Front du Travail, de soutenir activement le NSDAP et toutes ses formations dans leurs engagements. Des directives ont déjà été données à mes hommes de confiance qui se sont engagés avec succès dans le parti, la jeunesse hitlérienne, la BDM, la SA. Les sections SS doivent également recevoir notre soutien. Mes adhérents qui sont jeunes, surtout ceux qui physiquement et au point de vue race sont irrécusables, doivent absolument se grouper dans la SS. Ah, bien. Et on a donc ces éléments qui permettent, avec la Cour de justice, de comprendre un certain nombre de choses. On comprend alors aussi bien, si vous voulez, le fait que à cette époque-là, dans les années 85-86, les archives de la Cour de justice étaient elles-mêmes soigneusement verrouillées. Et à la limite, vous voyez à qui pouvait plutôt servir ce verrouillage, puisqu'il ne donnait pas accès aux documents. Alors naturellement, les choses peuvent être parfois poreuses, et Charles Vigel était l'archiviste de Sarreguemines, dont le fils Henri était archiviste aux archives de Metz. Il m'écrivait en disant, monsieur Lerche, ne vous inquiétez pas, lorsque vous aurez accès aux archives de la Cour de justice, vous trouverez des choses fabuleuses et qui vous dépasseront. Donc, par exemple, celle-ci. Et puis, il y a parfois dans la vie, c'est pour ça que je tiens à la chronologie, des hasards qui font que je me retrouve inspecteur d'académie numéro 2 en Moselle, Lucie Roux, archiviste de la Moselle, et donc le feu vert absolu par rapport au préfet pour obtenir la dérogation qui permet d'aller regarder enfin un document et de constater que Joseph Dilger a fait toute sa peine, il a fait ses 10 ans, puisque la justice a un petit livret les prisons qu'il fait, les éventuelles remises, les éventuelles amnisties, etc., sont indiquées. Malheureusement pour le fils et malheureusement pour la famille, il n'est à aucun moment question de la moindre grâce que ce soit. Donc, si vous voulez, l'argument central que j'avais évoqué au début, j'étais prêt à reconnaître que je m'étais trompé, que nous étions trompés. Mais je veux dire, ça n'existe pas. On voit jusqu'à quel point on peut avoir des défenses familiales qui font que des légendes viennent dire des choses qu'ensuite nous ne trouvons pas dans des archives et que nous n'avons pas de témoignage indirect, ne serait-ce que par le fait qu'étant gracié, il a fait quelques jours ou quelques mois de prison et pas sa dizaine d'années. Et puis, les recherches continuent, et nous sommes quelques-uns à aller interroger des témoins. Il était temps, parce que ces témoins maintenant sont morts. Alors, je ne donne là aussi qu'un seul témoignage, c'est Titret, André Titret, le maire de Chavannes-sur-l'Étang. Lorsqu'il a consenti à témoigner, il y avait sa fille qui était là, une trentaine d'années, et à un moment, très gentiment, ça se passe bien, on discute, il voit bien que le sentiment n'est pas de condamner, notre sentiment, c'est de savoir effectivement ce qui s'est passé. À un moment, il nous dit qu'il est 7h30, 8h du soir, il va faire en sorte qu'on puisse dîner ensemble. Et sa fille, à ce moment-là, se rapproche de moi et me dit, mais écoutez, monsieur, je suis ravi, mon père ne m'a jamais raconté tout ça. On était également dans des familles où bien ça explose de temps en temps, mais ça se fait. Donc, des témoins, et parmi les témoins, un témoin indirect, c'est-à-dire un moine de l'abbaye de Lemberg, qui, au moment de son décès, avait des coupures du Bauernblatt, un paquet de coupures du Bauernblatt. Alors, c'était le fils du conseiller général Zimmer, du Morin, et il avait, par le biais de son père, il avait gardé, ne me demandez pas comment ni pourquoi, le projet de livre de François Dilger pour que Joseph Dilger puisse écrire le livre de son épopée. Et donc il avait découpé les articles de journaux, grand 1, grand 2, grand 3, petit a, petit b, petit c, le bouquin est là, tout prêt à l'édition. Et puis, naturellement, les archives. Alors, les archives, il y en a trois qui sont absolument essentielles. Il y a ce qu'on appelle chez les historiens le fonds de Moscou, c'est-à-dire la Gestapo arrive à Paris, elle rafle toutes les archives de la police et du ministère de l'Intérieur. Elle emmène ça à Berlin. Les soviétiques délivrent Berlin et ils se rendent compte de l'intérêt de ce genre de document qui donne toutes les fiches sur les hommes politiques jusqu'en 1939. Ça part à Moscou et on dégèle. Ça fait partie des choses rapatriées et où on a des fiches absolument extraordinaires, des renseignements généraux, de la sûreté publique et en particulier des hésitations à savoir où est-ce qu'on va le classer, est-ce qu'il est autonomiste, est-ce qu'il agit pour la France, des choses fabuleuses. Et puis naturellement, dans le Bas-Rhin, le fond va. Et puis, last but not least, la rencontre avec Robert Paxton, qui cherchait des documents sur Dorgère et qui essayait de comprendre pourquoi est-ce que Dorgère était venu en Alsace, pourquoi est-ce qu'il avait piqué à Bilger son uniforme. Et il avait besoin de comprendre ça. Et donc, vous avez là une quête qui permet donc de voir, et on va reprendre, si vous voulez, les images les unes après les autres, une espèce de différenciation. Alors, on avait bien vu ensemble pourquoi est-ce que ce mouvement jeune avec quelqu'un qui vous plante, pourquoi ce mouvement de jeunes qui se met sur un antisémitisme, un anticapitalisme, etc. Pourquoi est-ce que ce mouvement de jeunes va tourner, deuxième image, au fait que là, on ne va plus avoir un discours contre, mais un discours pour et en faveur des nazis et de la propagande nazie. Je vous ai lu un de ces textes qui donne littéralement froid au dos. Et troisième document, vous avez là, souvenez-vous, les juifs de Mulhouse qui disent on a une équipe qui est prête à aller se battre physiquement. Et ils sont là. Ils sont allés sur le marché de la Sainte-Catherine à Altkirch en novembre 35. Et Bilger, avec son imprimerie, tire un extra-blaf pour dire, mais rendez-vous de son journal folk, pour dire rendez-vous pour, sur le marché de Sainte-Catherine à Altkirch, il y a des chômeurs de Mulhouse et aussi des enfants de paysans qui voulaient vendre notre journal. Alors regardez le grand caractère qu'il y a à Paris, qui sont Anne et Riffenborn, qui ont été agressés par environ 200 juifs. Et donc vous avez là cette espèce de publicité qui n'est pas la publicité, cette idéologie qui n'est pas dans des livres ou dans de précieux manuscrits, mais qui est dans des espèces de papillons qui ont été distribués par propagande et qu'on ne retrouve que dans le fond wallon, parce que les gens des renseignements généraux ont fait leur travail, et en attestation de la manière, entre guillemets, de la bagarre, donne ce genre de témoignage, et vous voyez ensuite que l'on va parler de Polakiuken, de Solikos Paris, du Juden Michel Epoche, l'Antisemitin des Indes, la canaille, je traduis, la canaille sémite. Et en gros caractère de nouveau, vous voyez que si on prend que les tout gros caractères, il y a Extrablatt, Frontier 4200, Jetzt ist es genug, il y a vraiment une lecture à travers les gros caractères qui sont des opérations entre guillemets coup de poing. Je prends la suivante. Vous avez là un journal que le peuple libre de France, on n'ira jamais à quel point ce qui nous reste par le dépôt légal est absolument fantastique. Donc partout, le marxisme mène à la dictature juive. Alors, il y a l'exemple russe, et vous voyez que pour ce qui est de la Chine, l'Allemagne, etc., il y a sans arrêt la démonstration, selon lui, que être marxiste, c'est au fond avoir des origines juives, et qu'au fond, c'est le pouvoir juif, le pouvoir d'Israël, qui se met en place. Le solidarisme sert de temps en temps de couverture chrétienne, mais le solidarisme étant d'origine franc-maçonnique avec Léon Bourgeois, on est là sur une sacrée confusion des gens. Mais enfin, le solidarisme méritait d'être un peu plus équilibré parce qu'il y a eu une reprise dans certains milieux chrétiens. Vous avez vu cette planche-là, vous vous en souvenez, les Juifs ne sont pas restés inactifs, ils ont essayé de faire la dernière. besoin pas la force, on viendra. Et je voudrais terminer par le maître de la guerre, rappeler que les journaux de Bulgare étaient nourris de publicité, et que parmi la publicité, on voit réapparaître quelqu'un qui est bien connu dans les mouvements d'extrême droite, le maître du Breuil, qui est à la tête de la sueur, et qui par conséquent a une possibilité à la fois de faire une propagande pour ses tourteaux, nourriture pour l'élevage, et qui en même temps a une possibilité de donner de l'argent d'une manière ou d'une autre à Bulgare. J'espère vous avoir convaincu du fait que lire cette année, soit les Annales de l'Est, soit l'Annuaire du Sundom, où ce que je viens de dire est infiniment plus développé, vous montre la patience qu'il faut avoir pour pouvoir démontrer le plus clairement possible que l'histoire de l'Alsace, et en particulier de son extrême droite, si elle veut être crédible, doit pouvoir passer par l'histoire de Bulgare et d'autres